a été pendant 2 ans ensemble à Aix-les-Bains. On a travaillé à Aix-les-Bains ensemble dans l'implantation d'églises et on fait le même parcours de formation. On est dans la même classe à l'IBG, donc c'est mon copain de classe. Voilà. Voilà. Alors, Mathieu, d'où es-tu originaire ?
Je viens de Bordeaux.
D'accord. Tu as grandi là-bas ? Tu as fait ta vie là-bas ?
Ça fait un peu l'école des fans. Là.
Ouais, c'est vrai.
J'ai grandi à Bordeaux, j'ai fait mes études là-bas et après j'ai fait aussi 2 ans d'études à Paris avant d'aller à Genève à l'Institut public.
D'accord, est-ce que tu peux nous en dire... C'est vrai, attends, il a dit l'école des fans, c'est mortel. Alors, mon petit Mathieu,
oui.
Peux-tu nous en dire plus sur tes études?
Voilà. Alors, j'ai fait un bac art appliqué. En gros, c'est un bac où on dessine beaucoup et on arrête les maths assez tôt. Ensuite, j'ai fait 5 ans de Beaux-Arts à Bordeaux, donc je suis diplômé des Beaux-Arts de Bordeaux. Je suis parti à Paris faire un master à l'école des hautes études en sciences sociales, toujours dans le domaine de l'art, mais là c'était plus théorique. Donc j'étudiais, je faisais un peu de la théorie de l'image en gros.
D'accord, et qu'est-ce qui t'a poussé à aller à l'Institut biblique ?
Je me suis converti, je suis devenu chrétien en 2003 à 17 ans. Et j'ai vécu ma vie normalement. Et puis à un moment donné, j'ai eu cette envie d'aller un peu plus loin, de connaître un peu mieux Dieu, de connaître un peu mieux la Bible. Et on m'a dit, pourquoi tu n'irais pas faire un an d'institut biblique à Genève. Et j'ai pris le défi, j'ai voulu aller voir par moi-même ce que c'était.
Ok. Alors, ta situation sociale, maritale, voilà.
J'ai un permis B.
Combien de points sur ton permis ?
Tous.
Ah.
Je suis marié à Alexandra, qui n'est pas là, qui vous salue, depuis août 2014.
D'accord, super. Là, l'IBG va se terminer pour toi, comme pour moi, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'il va y avoir après ? Voilà, si Dieu veut. Oui, oui.
Alors, je suis comme Raphaël pour l'instant en stage et le lieu où je suis en stage est à Étupes, c'est à Étupes, dans l'est de la France, à 4 heures d'ici. Et si Dieu veut, je resterai là-bas pour avoir un poste pastoral.
Voilà, très bien. Bah, écoute, je vais prier et puis on va te laisser la parole. Mon Dieu, on veut te remettre Matt, te demander, Seigneur, de l'accompagner pendant ce temps d'enseignement, Seigneur. On te prie aussi pour que tu accompagnes chacun d'entre nous, que nous soyons tous pleinement acteurs, pleinement attentifs, Seigneur, que nous puissions écouter avec notre intelligence, notre cœur, Seigneur, et que nous ne repartions pas d'ici comme nous sommes venus. Nous voulons apprendre de toi. Apprendre de toi pour vivre comme toi tu le veux, Seigneur. Et on te prie pour que tu nous bénisses richement, que tu bénisses Matt aussi. On te prie que tu le soutiennes aussi physiquement et que tu sois avec chacun d'entre nous. On te prie pour tous les frères aussi, les sœurs qui ne sont pas parmi nous, Seigneur, que tu sois avec eux et que tu les encourages ce soir. Seigneur, voilà, on te remet ce temps-là et qu'il soit à ta gloire. Amen.
Amen. Alors, bonjour à chacun, merci d'être là. Je sais que l'appel de la terrasse était tentant avec ce temps. Comme à Giraffe, on va passer deux temps ensemble aujourd'hui. La première partie sera un peu plus théorique que la seconde. La première partie, donc on a découpé le truc en deux, ce sera voir comme Dieu voit. La deuxième partie, ce sera vivre comme Dieu veut. Donc la première partie, on va s'intéresser à la vision biblique du monde, un peu voir en détail ce qu'elle est. Et la deuxième partie, on va voir ses implications, et surtout ses implications dans notre évangélisation et notre témoignage. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, je vais peut-être aller un peu vite, mais normalement ça devrait aller. On y va. Qui c'est qui a déjà entendu parler de vision du monde? Ok, pas mal, excellent. Pour mettre tout le monde au même niveau, on va prendre une définition. Alors à chaque fois qu'il y aura une définition ici, je vais la lire. Donc si vous cassez les yeux à lire, moi je la lis dans tous les cas. Une vision du monde est un réseau tissé de croyances fondamentales, présuppositions, valeurs et idées à propos de l'univers et de notre place dans celui-là, qui modèle la manière dont un individu comprend sa vie et ses expériences, et la vie et les expériences des autres, et la manière dont cette personne se comporte en conséquence. Alors, juste pour vous situer, James Anderson, c'est un monsieur qui a beaucoup réfléchi sur les visions du monde, en particulier la vision biblique. Peut-être je vous parlerai de son travail un peu plus loin, un peu plus tard, mais je vais souvent le citer. Donc, cette définition, elle nous dit que notre vision du monde, c'est un cadre de référence qui va nous aider et qui va nous orienter dans trois choses. Notre perception, donc la façon dont on va voir le monde, notre compréhension, la manière dont on va comprendre le monde, et notre orientation, la manière dont on va vivre dans le monde. Souvent, on pense que la vision du monde, elle n'influence que la compréhension, et on oublie la première partie qui est la vision. Mais en fait, si on réfléchit et si on pense que chacun a une vision propre du monde et qu'elle est différente, par exemple, j'aurais une vision du monde différente que celle de mon voisin, qui est peut-être musulman ou athée ou je ne sais quoi, le fait d'avoir des visions différentes du monde va expliquer pourquoi nous voyons le monde différemment. Et ce n'est pas étonnant qu'on se dise que quand on parle à quelqu'un, il ne comprend pas ce qu'on dit, il ne voit même pas ce que l'on veut dire. De la même manière, notre vision du monde, elle va influencer notre manière de comprendre le monde. Par exemple, si on prend une situation, on raconte à quelqu'un... Le mois dernier, il y avait quelqu'un qui était malade dans l'église. On a prié pour cette personne, on a fait une soirée de prière. Et la personne a été guérie et les médecins ne peuvent pas expliquer ce qui s'est passé. Alors pour nous, cette situation, elle va révéler la puissance de Dieu qui a guéri la personne. Pour une autre personne qui n'a pas la même vision du monde, elle va devoir expliquer la même situation, mais avec sa vision du monde. Elle va invoquer soit la science, soit la chance, soit ce qu'elle pourra invoquer pour expliquer cette situation. Donc on ne parle jamais de faits bruts, il y a toujours une interprétation des faits. Et enfin, notre vision du monde, ce n'est pas juste quelque chose de théorique, ce n'est pas juste un exposé, des idées ou un ensemble de suppositions, elle va directement influencer notre manière de vivre et c'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est parce que ça va aussi changer notre manière de vivre dans le monde et de témoigner. Je vais reprendre une citation d'un chanteur qui s'appelle Lycrae, qui dit « Ta manière de vivre dans le monde est nécessairement une expression de tes croyances. En gros, ce que tu vis témoigne de ce que tu sais. Ce que tu vis témoigne de ce que tu crois. » Et c'est pour ça que nous, chrétiens, on insiste beaucoup sur la notion de témoignage, parce que normalement, notre vie, la manière dont on se comporte, témoigne de qui est Dieu et de ce que l'on croit. La vision du monde aussi, c'est elle qui va déterminer nos choix éthiques. Que doit-on penser de l'avortement ? Est-ce que je dois virer cet employé ? Est-ce que je dois augmenter mon salaire ou ceux de ceux que j'emploie ? Est-ce que c'est vraiment grave de tromper ma femme si elle ne sera jamais au courant ? Toutes ces questions-là, chacun va y répondre en fonction de sa vision du monde. Ou en tout cas, sa manière d'agir va nous révéler ce qu'il pense et croit vraiment. En fait, notre vision du monde, elle nous sert un peu de boussole pour orienter notre vie dans notre façon de vivre, dans notre sens de la justice. Elle va nous aider à distinguer le bien du mal. Elle va aussi nous orienter dans notre but, ce que nous poursuivons dans la vie. On va voir pourquoi c'est important un peu plus tard. Elle va aussi nous aider à réfléchir aux grandes questions de la vie, par exemple les questions éthiques dont on a parlé juste avant. Et généralement, on dit que les visions du monde répondent à quatre grandes questions de l'homme que tout le monde s'est posées au moins une fois et qui sont fondamentales, qui sont « qui suis-je ?», c'est-à-dire quelle est la nature de l'être humain, quel est son rôle, quel est le sens de la vie, pourquoi on est sur Terre, où suis-je ? Alors, normalement, tout le monde dira, oh, on est sur Terre, merci. Mais ça va plus loin, c'est quelle est la nature de l'univers? D'où il vient? Est-ce que l'univers aussi rentre dans un but plus global? Est-ce que l'univers est distinct de nous, distinct de Dieu, etc. Troisième question, c'est quel est le problème? Tout le monde, j'espère, s'accordera sur le fait que quelque chose cloche dans le monde, qu'il y a un problème. Notre vision du monde devra répondre à cette question. Quel est ce problème? Qu'est-ce qui m'empêche de connaître mon épanouissement? Quelle est la nature du mal et comment on peut le comprendre? Et enfin, dernière question, quel est le remède? S'il y a un problème, c'est qu'il doit y avoir un remède. Comment vaincre l'obstacle qui se met entre moi et mon épanouissement? Alors pour nous, dès qu'on parle quel est le problème, bam, il y a péché qui s'allume comme ça. Mais quand on va parler avec quelqu'un qui a une autre vision du monde, il y aura toujours une question de problème, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas et qu'il faudra éradiquer. Alors, on peut se demander, même si normalement la réponse est évidente si vous êtes là, mais pourquoi on doit réfléchir à une vision biblique du monde? Pour ceux qui ne le savent pas, j'écris sur un site qui s'appelle toutpoursagloire.com. Qui c'est qui connaît Tout pour sa gloire? Impeccable. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir, c'est génial. toutpoursagloire.com. Et le slogan qu'on a, c'est le slogan que j'ai repris en fait pour cette soirée, c'est voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Et notre mission, on l'a articulée comme ça, aider les chrétiens à développer une vision biblique du monde pour savoir comment glorifier Dieu dans tous les aspects de leur vie. Ça, c'est notre mission. C'est pour ça que le site s'appelle toutpoursagloire.com. En fait, on est persuadé que articuler une vision biblique du monde est nécessaire pour les deux grandes choses de la vie chrétienne, vivre en disciple et faire des disciples. On est persuadé que plus les chrétiens auront une vision biblique solide du monde, plus leur vie de disciple sera facile. Et normalement, si leur vie de disciple est plus facile, la manière dont ils font des disciples sera plus facile. Et on va voir ça un peu plus en détail après. Je cite Don Carson qui a dit « Nous devons savoir ce que les gens pensent. On n'arrive pas en terrain neutre. Il faut faire de la place avant d'annoncer l'évangile. » On y reviendra plus tard. Nous ne devons pas ajouter des obstacles à l'évangile pour garder le scandale de la croix intacte. Par exemple, si les gens adoptent un point de vue postmoderne, une autre vision du monde dont on parlera plus tard, ils verront le péché comme une construction sociale. Et du coup, nous, on ne peut pas arriver en leur disant « Mais le péché, en fait, tu ne sais rien du tout, tu n'as rien compris, c'est ça. » Alors que lui, il a déjà une catégorie pour ce qu'on nomme péché. Donc l'idée, ce n'est pas de dire « T'as tout faux, voilà ce qui est vrai. » C'est de comprendre d'abord ce que les gens pensent et ensuite de leur montrer ce qui est vrai. Alors, en préliminaire, je voudrais m'appuyer sur deux bases qui me semblait évidente, mais je préfère les redire. La première, c'est Dieu. La vision du monde biblique commence avec Dieu. Dieu est unique. Alors là, je vais balancer un peu des attributs. Vous inquiétez pas si vous prenez des notes. Je vais aller vite, vous inquiétez pas. Et bien sûr, ça, si vous étudiez un peu en théologie systématique, donc tout ce que dit la Bible à propos de Dieu, on retrouvera un peu ça. Dieu est unique, incréé, éternel, infini, juste, parfait, saint, le début et le fondement de tout ce qui existe et de tout ce que l'on connaît. Quand nous parlons de Dieu, nous parlons du Dieu trinitaire. Omniscient, omnipotent, qui peut tout, omniprésent, présent partout, immuable, qui ne change pas, mesure et source de l'amour, la bonté, la miséricorde, la beauté, plein de sagesse, de patience et de gloire, entièrement souverain. Et c'est avec Dieu que l'on commence notre vision biblique du monde. Dieu est indépendant. Il n'a besoin de rien pour exister. Il se suffit à lui-même. Ça aussi, c'est important. Par exemple, pourquoi on dit que c'est important de savoir et de dire que Dieu est indépendant et distinct de la création, par exemple, parce que ça va s'opposer à toutes les visions du monde qui disent que Dieu et la création sont fusionnés, ou que la création est en Dieu, ou que Dieu est dans la création. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. De toute éternité, il existe une joie parfaite au sein de la Trinité, entre les trois personnes, donc, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enfin, et c'est aussi important dans notre vision biblique du monde, Dieu est personnel. On peut le connaître personnellement, et il nous connaît personnellement. Et c'est important d'avoir ces définitions assez claires de qui est Dieu, parce qu'on peut avoir des visions du monde qui vont accepter l'idée d'un Dieu, peut-être même l'idée d'un Dieu trinitaire, mais qui vont oublier de dire que Dieu est personnel. Certains vont dire que Dieu a créé le monde. C'est un peu ce truc de l'horloger. Je ne sais pas si vous connaissez. Dieu est comme un horloger. Il a mis en gros en place l'engrenage de l'univers. Mais dans cette vision du monde, Dieu s'est retiré et il laisse l'homme faire ce qu'il veut, et Dieu n'intervient pas dans la vie de l'homme. Alors que dans la vision biblique du monde, ce n'est pas le cas. Deuxième fondement, la Bible. La Bible, c'est la base. C'est un petit moyen mémotechnique. Nous, chrétiens, nous affirmons que si on peut connaître Dieu, c'est parce que Dieu s'est fait connaître. Dieu s'est fait connaître, Dieu s'est révélé dans sa parole. Et tout ce que nous pouvons savoir de certains, et de Dieu, et du monde, c'est parce que cela est dit dans la Bible. Dieu nous l'a révélé. Dieu est la source et la mesure de la vérité. Pourquoi c'est important ? Parce que dans d'autres visions du monde qui vont aussi se réclamer de Dieu et du Dieu de la Bible, il y aura une vision de la Bible qui sera différente de la nôtre. Nous affirmons que la Bible est entièrement vraie, sans erreur, et qu'elle détermine tout ce que nous devons croire et tout ce que nous devons vivre. D'autres approches de la Bible, par exemple les approches libérales, vont distinguer la vérité religieuse de la vérité historique. Et du coup, ils vont dire, tout ce que dit la Bible à propos de tout ce qui est religieux, à propos de Dieu, etc., tout ça c'est vrai, mais tous les aspects historiques de la Bible, ah, c'est pas grave si c'est pas vrai, etc. Ça pose un gros problème, parce que si la résurrection, pour ne citer que ça, n'est pas vraie, alors, comme dit Paul, notre foi est vaine. C'est important d'affirmer l'autorité et l'inhérence de la Bible. La Bible est sans erreur et c'est elle qui nous dicte ce que nous devons croire et ce que nous devons vivre. Ok, ça c'était l'intro, on est bon ? J'imagine que oui. La vision du monde biblique, c'est pas seulement un tissu de croyances ou un ensemble de doctrines, comme on l'a dit, mais c'est une histoire. La Bible, elle nous présente la création du monde et la relation de Dieu entre Dieu et le monde comme une histoire. C'est pas une philosophie, c'est pas un programme, c'est une histoire. C'est cette histoire qui nous révèle qui nous sommes, qui nous révèle d'où nous venons, quelle est notre place, quel est le problème et quelle est la solution. Et depuis Augustin, donc depuis le 4e siècle, il y a cette idée qu'on reprend de couper l'histoire biblique en création, chute, rédemption et glorification. Et j'ai repris un peu ce découpage pour ce soir. Ok, on commence avec la création. Alors, il y a des trucs que je vais dire et que certains connaissent. Il y a certains qui vont connaître beaucoup de ce que je vais dire, certains peu. Ce que je vous propose, c'est que vous gardiez vos questions et qu'on en parle à la fin. Ok. On commence avec la création et je vais passer un peu plus de temps sur la création que sur les autres parce que dans la vision biblique du monde, la création, elle est fondamentale. Et on va voir que tout ce qui est mis en place dès la création du monde, ça va nous aider dans notre vision pour plus tard. C'est la création qui nous dit comment le monde est Et pour nous qui sommes de l'autre côté de la chute, comment le monde devrait être et comment le monde ne devrait pas être. Et si on reprend les quatre questions dont on a parlé tout à l'heure, les questions fondamentales des visions du monde, c'est la création qui nous permet de répondre à la question « Qui suis-je ?» et « Où suis-je ?» La première chose que je voudrais souligner dans cette doctrine de la création, c'est la souveraineté de Dieu et la centralité de Christ. La Bible, elle nous dit que l'univers et tout ce qui le renferme a été créé à partir de rien. Elle nous dit que l'univers a été créé par Christ et pour Christ. Est-ce que ceux qui prennent des notes, vous voulez à chaque fois que j'ai des références, que je cite les références ? Ou pas ? Vous pourrez avoir ça, mais il n'y a pas toutes les références dessus. Je les cite, si tu as le temps de les marquer. Donc, c'est par Christ que l'univers a été créé, on le voit dans Hébreux 1:2. Pour Christ, Colossiens 1:16. Et c'est lui qui fait subsister toute chose. Donc là encore, on n'a pas cette idée de Dieu qui a fait le monde et après il se retire. Dieu, par Christ, pour Christ, fait subsister le monde en lui. Il soutient toute chose par sa puissance. Et Charles Spurgeon, un célèbre prédicateur, a dit qu'il n'y a pas un seul grain de poussière dans un rayon de lumière qui bouge d'un atome de plus que Dieu l'a décrété. Depuis le début, Dieu maintient l'univers qu'il a créé. Alors désolé si je suis un peu à la ramasse avec mon PowerPoint, ça fait longtemps que j'ai plus l'habitude, donc si je suis un peu en retard, vous pouvez... Philippe, sois attentif. Dès qu'il y a un problème de PowerPoint, tu me fais un signe. Je vais reprendre le vocabulaire de théologiens qui parlent de loi pour désigner les actes de Dieu quand il ordonne le cosmos. La manière dont Dieu soutient et ordonne chaque chose dans le monde, ils ont parlé de loi pour désigner ça. Et on va séparer cette loi en deux. La partie naturelle, la loi naturelle et les normes. La loi naturelle, à gauche, ça concerne tout ce qui est non humain. Et cette loi, elle est immédiate. Il n'y a pas d'intermédiaire. Dieu parle et la chose arrive. Pour ce qui est humain, la colonne de droite, cette loi est immédiate. Ça veut dire que Dieu se sert des hommes pour accomplir sa volonté sur terre. Et on va voir pourquoi c'est important. La première catégorie, on peut appeler ça les lois naturelles. C'est tout ce qui concerne la gravité, la thermodynamique, la photosynthèse, l'entropie. Alors là, c'est un exemple de mot que je sors. Je sais que c'est une loi, mais je pourrais donner une définition succincte. Mais s'il y a des scientifiques, ne me posez pas une question là-dessus à la fin. Donc toutes ces lois naturelles, c'est les lois que Dieu utilise pour maintenir et ordonner le monde. La deuxième catégorie, c'est les normes, et c'est par ça que Dieu ordonne la culture et la société. Et dans cette loi en général, on peut distinguer plusieurs niveaux. Par exemple, la nature va obéir par nécessité. Alors c'est bizarre de dire que la nature obéit à Dieu, mais on va voir que c'est biblique. Donc la nature obéit par nécessité. Les animaux, eux, pourront obéir par instinct. Et les hommes, en revanche, doivent exercer leur responsabilité pour obéir à Dieu. Mais pourquoi c'est intéressant d'avoir cette vision globale de la manière dont Dieu ordonne et maintient le cosmos et la Terre, c'est de voir qu'il n'y a pas de séparation entre la manière dont Dieu s'occupe de la nature et sa souveraineté sur la nature et la manière dont Dieu est souverain sur les hommes. Et ça, c'est important parce que le monde que Dieu a créé est un monde moral. Ça veut dire que ce que je fais concerne Dieu parce qu'il a aussi décidé des lois qui doivent régir nos sociétés et notre vie. On y reviendra. Ce qu'on doit retenir, c'est que Dieu règne sur absolument tout et que rien ne peut se substituer à sa volonté souveraine. Alors, je vais lire un passage, c'est dans le psaume 147. Si vous avez une Bible, vous pouvez le prendre. Je vais lire les versets 15 à 20. Ceux qui n'ont pas de Bible, je vais le lire. Psaume 147, versets 15 à 20. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Dans ce même passage, dans ce même psaume, dans ces cinq versets, le psalmiste parle consécutivement la manière dont Dieu ordonne à la nature les actions qu'elle doit prendre et la manière dont Dieu ordonne les choses aux humains. La création révèle qui est Dieu, on va le voir, la gloire de Dieu et la bonté de Dieu. Je lis, pas la peine de le prendre, je lis le début du psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne sont point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. La Bible dit ici, aussi dans Romains 1, elle le dit de manière très forte, que Dieu se révèle par sa création et que donc tous les humains sont inexcusables puisque l'existence et la réalité de Dieu est manifeste par tout ce qui nous entoure. Calvin dit « Dieu se fait connaître à tout homme d'une façon tellement forte qu'il est impossible de l'éliminer ». Quand on voit la création, on sait que Dieu existe. D'une manière particulière, les normes qu'il a implantées au fond de nous, quand il nous a créés, témoignent qu'il nous a créés. Notre conscience témoigne de notre Créateur. Alors on doit affirmer ça, mais on doit aussi affirmer que c'est la révélation spéciale. Cette partie de la révélation, on l'appelle communément la révélation générale. Donc on sait que Dieu est là, on sait qu'il existe, on sait qu'il a créé le monde. Mais c'est la révélation spéciale qui va aider l'homme à discerner la volonté de Dieu et qui va l'aider à le connaître personnellement. Je cite toujours Calvin. Une aide meilleure est nécessaire pour nous permettre de bien parvenir jusqu'à lui. C'est pourquoi Dieu a ajouté la clarté de sa parole pour se faire connaître en vue du salut. Bien que ce soit là un privilège, une grâce qu'il n'accorde qu'à ceux qu'il a voulu accueillir personnellement près de lui. Donc, la création révèle Dieu, mais la création révèle la gloire de Dieu. Le but de la création, ce n'est pas seulement de dire que Dieu est là, mais c'est de dire que le Dieu qui est là est un Dieu glorieux. Toute la création, et ça c'est fondamental, toute la création a pour but de glorifier Dieu qui l'a créé. Et je lis dans Apocalypse 4, le verset 11. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Je cite toujours Calvin. Alors je cite beaucoup Calvin, je suis en train de lire sa grosse institution chrétienne, je le fais en un an, Donc, il y a pas mal de citations de Calvin. Calvin dit « De quelque côté que nous portions le regard, nous apercevons une petite portion, au moins une étincelle, de la gloire de Dieu. » Aussi, la création révèle la bonté de Dieu. On a ce refrain dans Genèse 1 qui revient « Dieu vit que cela était bon ». La Bible affirme le caractère fondamentalement bon de la création. Et pourquoi la création est bonne ? C'est parce que Dieu est bon. On verra plus tard les implications de ça. Une des implications que j'anticipe, c'est que si on en vient, à cause du péché, à dire que la création est mauvaise, on dit que Dieu est mauvais. La vision biblique du monde, elle affirme que rien de mauvais ne peut sortir de Dieu. Et si on va plus loin, et si on dit que Dieu manifeste sa bonté dans la création, Dieu manifeste sa bonté aussi dans les normes dont on a parlé tout à l'heure, qu'il donne et qui vont avec cette création. Donc la manière dont Dieu commande à l'humanité de vivre révèle aussi qu'il est bon. D'ailleurs, quand on parle avec les gens, des gens qui ne croient pas en Dieu, ils reconnaissent assez facilement que si les gens pouvaient vivre selon les normes de Dieu, la loi morale de Dieu, les 10 commandements, le monde se porterait mieux. Autre chose, dans la création, l'homme a une place particulière. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Si vous voulez voir ça, allez lire le psaume 8, psaume magnifique qui montre la place particulière de l'homme. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette notion, elle implique deux choses, au moins, qui vont aussi nous servir pour la suite. Premièrement, que l'homme, dans une certaine mesure, est semblable à Dieu. Deuxièmement, que l'homme représente Dieu sur la terre. Donc l'homme a une place particulière et un rôle particulier sur la terre. Et on a vu que la relation de Dieu avec le monde, ce n'est pas une relation statique, c'est une relation dynamique. Dieu n'a pas juste fait quelque chose et après il ne fait plus rien. Dieu continue de maintenir le monde et de le faire tourner. Et c'est lui qui nous donne le souffle, c'est lui qui nous permet de vivre, c'est lui qui permet toute chose. Donc cette relation entre Dieu et sa création n'est pas statique. Et la manière dont Dieu aussi manifeste cette dynamique de développement du monde passe par l'homme. Donc, c'est ce qu'on appelle le mandat culturel. Qui c'est qui a déjà entendu parler du terme mandat culturel ? Ok, un peu moins. Je vais développer. En Genèse 1, 26-27, on lit « Faisons l'homme à notre image ». Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc on voit que quand Dieu crée l'homme, Dieu lui demande aussi un certain nombre de choses en relation avec la création. Il lui demande de dominer sur la création. Alors bien sûr, quand on entend dominer, on a cette image d'asservissement un peu vile, mais la question de la domination dans la Bible, c'est de prendre soin et de nourrir pour faire prospérer. Donc il n'y a pas de connotation négative. Et là, on se rend compte que par l'intermédiaire de l'homme, Dieu prend soin de sa création. Et ça nous montre aussi le rôle important qu'a l'homme sur la terre, parce qu'on a une mission de préservation et de développement de la création qui nous a été donnée par Dieu dès la création et qui fait partie du fait qu'on soit à son image. Parce qu'on est à l'image de Dieu, parce qu'on est à sa ressemblance, on prend soin de la création. Et un auteur fait remarquer que Adam et Ève, en tant que premier couple marié, représentent les débuts de la vie sociale. Leur mandat de garder le jardin, leur première tâche d'agriculture, représente les débuts de la vie culturelle. Et tout cela, toujours, en vue de glorifiant Dieu. Que ce soit en se multipliant, que ce soit en prenant soin de la terre comme Dieu leur avait demandé, tout ce qu'ils font a pour but de glorifier Dieu. Tout ce que nous faisons doit avoir pour but de glorifier Dieu. Et ça, dès la création. L'éclairage de la Bible aussi nous indique que la relation que Dieu avait avec sa création était une relation d'alliance. Je vous lis deux textes dans Jérémie 33, les versets 20 à 26. « Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. Ainsi parle l'Éternel, si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, on retrouve cette question de loi, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur, et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » On voit Dieu qui parle de deux alliances distinctes, la première avec la création et la deuxième avec David. Et la manière dont il caractérise la relation qu'il a avec la création, il parle d'alliance. Alors, ça implique notamment tout ce qu'il y a noté ici. Donc que Dieu soit décrit comme un souverain, c'est un roi qui règne sur toute la terre, que le mandat culturel dont on vient juste de parler s'inscrit aussi dans cette alliance, ça veut dire que si Dieu est souverain et Dieu nous a donné un mandat, nous sommes ses régents, nous sommes au service du roi. Et Dieu, le roi, nous demande de prendre soin de la création et nous obéissons en tant que régents au roi. Je vous conseille, en passant, un petit livre super intéressant qui s'appelle « Le Royaume révélé » de Graham, je ne sais pas comment on dit, Goldworthy, qui montre en fait le fil qui parcourt toute la Bible, et on retrouve toujours ce triptyque « Peuple, pays et relations ». Donc on voit le peuple de Dieu dans le pays de Dieu, dans une relation avec Dieu. Et ici, dans le cadre de cette alliance avec la création, parfois on parle d'alliance des œuvres, mais Raphaël vous en parlera un peu plus tard. Ici, on a Adam et Ève qui sont dans le jardin d'Éden et qui sont en relation, donc une relation d'alliance avec Dieu. On voit aussi que les lois naturelles, que ce soit les lois naturelles ou les normes, participent à cette alliance. Ça veut dire que si on casse les lois naturelles ou si on casse les normes, on porte atteinte à l'alliance de Dieu. On voit aussi que Dieu est fidèle à l'alliance qu'il a fait avec sa création, parce qu'elle est bonne. Et on voit à chaque fois que Dieu ne détruit pas la création, mais qu'il la purifie et qu'il la renouvelle. On a un premier aperçu de ça dans le déluge. Et on voit juste après le déluge, en Genèse 9, que Dieu réitère l'alliance qu'il avait faite. Et il donne pour signe de cette alliance l'arc-en-ciel. Et on voit que malgré le péché, Dieu n'a pas détruit la terre au déluge. Et cet acte-là préfigurait l'acte final que Dieu fera à la nouvelle création. On en parlera à la fin. Mais on voit que Dieu ne rejette pas sa création, même s'il y a le péché, et ça on doit le garder dans un coin de la tête. Enfin, pour finir avec la création, on voit qu'on peut parler d'une certaine solidarité de la création. toute la création, que ce soit l'homme ou la nature, toute la création partage une même origine et un même but. Et toute la création est bonne parce qu'elle vient de Dieu, et toute la création a pour but de glorifier Dieu parce que Dieu l'a créée. On a vu aussi que le règne de Dieu en tant que roi souverain s'étend sur toute la création, que ce soit la nature, mais aussi sur l'homme. Et ça, c'est intéressant parce que si on parle avec des gens et qu'on leur parle de ces lois naturelles, et qu'on leur parle de ces normes, ils seront d'accord pour dire que si jamais une loi naturelle vient à être brisée, si une loi naturelle disparaît, les conséquences seraient terribles. Si la gravité, s'il n'y a plus de gravité, c'est chaud. Je le dis comme ça, je n'ai pas de terme scientifique. Mais on imagine bien les conséquences d'une absence de gravité ou d'une absence de quelconque la thermodynamique ou toutes ces autres lois où on ne comprend pas grand-chose. Mais cette solidarité de la création, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que de la même manière, quand on viole les normes que Dieu a données à l'homme, les conséquences sont terribles. Et c'est ce qu'on voit dans la révélation biblique. On arrive à notre deuxième point qui est la chute. De la même manière que toute la création est bonne, que toute la création est placée sous le règne de Dieu et dans son alliance, toute la création a été touchée par la chute. Donc, pour replacer, quand on parle de chute, on parle de la désobéissance d'Adam et d'Ève à Dieu et des conséquences qui ont suivi. Donc, la violation de ces commandements et la désobéissance de l'homme a non seulement affecté l'homme, mais aussi la création en entier. Et on retrouve cette solidarité de la création dans les effets de la chute. La terre est maudite, Genèse 3, 18. Les relations entre les humains en général et dans le couple en particulier, dans Genèse 3, sont déréglées et la relation avec Dieu est brisée. Et on retrouve les trois dimensions de l'homme avec la création, de l'homme avec les hommes et de l'homme avec Dieu. Tout cela est déréglé parce que l'homme a désobéi. Et on voit que la création en tant que terre est touchée elle aussi par le péché. La désobéissance de l'homme n'a pas eu seulement des conséquences pour l'homme ou pour la relation de l'homme avec Dieu, mais aussi des conséquences avec la terre et la relation entre l'homme et la terre. Donc on voit que rien n'a échappé à la corruption du péché et que on voit la portée cosmique de la création. Et si on insiste que toute la création a été entachée par le péché, on doit insister aussi que l'homme tout entier a été touché par le péché, ce qu'on appelle la dépravation totale. C'est-à-dire que rien n'a été épargné par le péché, l'intelligence, la raison, les émotions, les aspirations, tout dans l'homme a été déréglé. Et si on dit ça, on doit aussi insister sur le fait que tout a été déréglé, mais pas complètement. Si tout avait été complètement déréglé, on ne pourrait pas vivre. Et on en parlera, c'est la question de la grâce commune, on en parlera un peu plus tard. C'est ça qui nous permet d'expliquer que les hommes aient encore un sens de la justice, un sens de la beauté, qu'ils puissent encore avoir des pensées, des émotions qui font écho à la nature bonne qui a été créée par Dieu. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont vraies, qui sont belles dans ce que disent ou ce que font les gens. C'est parce qu'il reste un petit peu de cette création bonne de Dieu. On doit affirmer l'aspect global et l'aspect cosmique de la portée du péché. Mais on doit faire attention à distinguer la création et le péché. Sinon, on va avoir des problèmes dans notre vision du monde, on va avoir aussi des problèmes dans notre vie chrétienne. On va voir les implications dans quelques minutes. Avant la chute, rien de mal n'existait. Tout était bon. Même après la chute, la création reste bonne. Le péché n'abolit pas le caractère bon de la création. C'est-à-dire que le péché reste distinct de la création. Et parfois, c'est vrai, c'est difficile de distinguer ce qui reste de bon dans la création et puis ce qui est de l'ordre du péché. On n'arrive pas à démêler le vrai du faux, le bon du mauvais. Mais il faut affirmer de manière forte la différence fondamentale entre le péché et la création. Sinon, on va tomber dans les travers dont on va parler juste après. En fait, j'aime bien cette image du péché qui agit comme un parasite. Le parasite qui contamine la création. Il pervertit, tord, défigure, mais il ne change pas la structure fondamentalement bonne de la création. Par exemple, l'adultère, même s'il est mauvais, ne change pas le caractère bon du mariage. La pornographie ne change pas le caractère bon de la sexualité créée par Dieu et voulue dans le cadre du mariage. Il faut arriver à distinguer ce qui est de l'ordre créationnel et ce qui est des déformations dues au péché. Et une chose qui m'aide, c'est cette distinction qu'un théologien a forgée. Il a forgé cette... ça c'est cool, je peux pouvoir utiliser mon laser un peu. Cette différence entre structure et direction. La structure, c'est ce qui se réfère à l'ordre créationnel, qui est bon. La direction, c'est ce qui se réfère à l'orientation que prennent les choses après la chute. Et on voit que cette orientation, elle est double. Elle va soit vers Dieu, soit loin de Dieu. Elle va soit vers l'obéissance, soit vers la désobéissance. Et tout dans la création, à la fois à cette structure qui est fondamentalement bonne, mais cette direction qui peut être soit mauvaise, soit bonne. Et tout dans la création penche d'un côté ou de l'autre, que ce soit l'art, la technologie, les humains en général, les émotions en particulier, la raison, la sexualité, tout ce que l'on fait dans la vie va soit dans un sens, soit dans l'autre. D'autres conséquences, un peu rapidement, de la chute, c'est que le péché est entré dans le monde, et avec le péché, la mort. Et si on comprend que dans cette relation d'alliance, Adam avait une place particulière en tant que représentant de l'humanité, on comprend pourquoi, à la suite de sa désobéissance, Adam a été maudit et avec lui, toute sa descendance. Et chaque homme, nous dit l'Écriture, on pourra lire dans Romains 3 ou Romains 5 notamment, chaque homme hérite de la culpabilité d'Adam. Chaque homme naît coupable à cause du péché d'Adam. Et chaque homme hérite de la corruption. On est mauvais. Non seulement on est coupable direct, mais aussi on est mauvais direct. On a parlé de l'image de Dieu, on a dit que l'homme était créé à l'image de Dieu. Et j'aime bien cette image de Henri Blocher qui dit que, à la suite de la chute, l'image est devenue caricature. Les traits sont déformés. On reconnaît ce qui est fondamental, ce qui est à l'origine, mais l'image est devenue caricature. Ça veut dire que l'homme a toujours l'image de Dieu en lui, même si cette image est déformée. Et c'est ce qui explique que même après la chute, l'homme a toujours de la valeur parce qu'il est créé en image de Dieu. Et c'est pour ça que même après la chute, porter atteinte à un homme, c'est porter atteinte à Dieu directement. Et c'est significatif qu'en Genèse 9, juste après le déluge et juste après la répétition de l'alliance que Dieu fait avec Noé, et il parle du meurtre et il dit « Porter atteinte à la vie de l'homme, c'est porter atteinte à Dieu parce que l'homme est fait à l'image de Dieu. » Et le Nouveau Testament nous le rappelle de la même manière, « Insulter un homme, c'est insulter Dieu parce que l'homme est fait à son image. » Alors, le péché a eu un impact sur absolument tout et aussi sur la culture. Alors, petite définition de la culture, parce que quand on parle de culture, les gens ils pensent direct à Van Gogh, à Picasso et à Mozart. Mais la culture, c'est simplement ce que l'homme fait de la création. Un produit culturel, c'est un acte de l'homme qui transforme la création que nous a donnée Dieu. Et dans ce sens, à peu près tous les actes sont des actes culturels. Parce qu'on part toujours de la création de Dieu, mais on la transforme, on la modifie, on l'améliore, et c'est ça le mandat culturel. Quand vous faites une tarte aux pommes, un fan de tarte aux pommes, une tarte aux pommes est un produit culturel. Pourquoi ? Parce qu'on a pris quelque chose de la nature et on l'a transformé. Mais on peut aller encore avant. La moisson est déjà un produit culturel parce qu'on a cultivé le sol. Et d'ailleurs, la première culture dont on parle dans la Bible, c'est l'agriculture. C'est la culture du sol. Ça, c'est super important pour la suite, on le garde dans un coin de la tête. Il ne reste plus beaucoup de coins. Le travail, par exemple, n'est pas apparu après la chute, après le péché. En revanche, après la chute, on voit qu'il est devenu pénible. La culture n'est pas le fruit du péché, mais une fois le péché entré dans le monde, la culture a, comme tout le reste de la création, été tordue et subi la corruption du péché. Et parfois on entend que la culture est le fruit du péché, parce que justement on pense à la musique, à l'art, etc. Et on dit oui, mais c'est les enfants de Caïn qui sont les ancêtres des musiciens et des ingénieurs, et Caïn, il était mauvais. Vous rigolez, mais je l'ai entendu beaucoup. Trois choses qu'on peut affirmer rapidement. Premièrement, la culture était là avant la chute. Je viens de le dire. Adam et Ève devaient cultiver le jardin. Deuxièmement, l'acte de nommer les animaux était déjà un acte culturel. On le voit dans Genèse 2. Et on voit que le premier poème, c'est quand Adam parle de sa femme et la nomme. Genèse 2, 23. C'est important aussi de rappeler que la notion de culture et de culturel dans la Bible, elle est associée à la notion d'image de Dieu. On a vu tout à l'heure que là où il est question d'image de Dieu, c'est le même passage où on parle du mandat culturel. Et du coup, on n'est pas des êtres culturels parce que le péché est entré dans le monde et la culture est le fruit du péché, etc. La Bible, elle nous dit qu'on est des êtres culturels parce qu'on a été créé en image de Dieu. On est des êtres culturels parce que on est créé par Dieu. Une des conséquences qui va avoir un impact immédiat sur notre manière de voir le monde, mais aussi de parler à nos contemporains, c'est le problème que j'ai appelé le problème de la fausse neutralité. Une des conséquences de la chute, c'est qu'elle nous montre l'impasse de l'homme. Et souvent, les chrétiens, ils présentent le salut comme un choix entre l'obéissance à Dieu et la désobéissance à Dieu. Et le problème, c'est que quand on présente le salut comme ça, entre un choix, entre ces deux chemins, on insinue deux choses. La première, c'est que les gens sont en position de neutralité, c'est comme s'ils n'étaient engagés ni sur un chemin ni sur l'autre. Et le deuxième, c'est qu'ils ont la capacité de choisir. Et les deux ont des conséquences très lourdes sur notre vision du monde et sur notre manière de faire des disciples. Première chose, c'est que en disant aux gens qu'ils ont le choix d'obéir ou de désobéir à Dieu, on oublie qu'ils sont déjà en train de désobéir à Dieu. Personne n'est dans une position de neutralité. Et personne n'a de choix à faire entre ce chemin et ce chemin. Ceux qui ne suivent pas Dieu, non seulement le fuient, mais sont dans une situation de rébellion active envers Dieu. Et je cite un auteur qui a dit « L'évangile du royaume, c'est annoncer le règne juste de Dieu sur le monde entier et appeler chacun à se repentir et à reconnaître leur roi juste. » Ceux qui nient le règne de Dieu ne sont pas en dehors du royaume de Dieu, mais ce sont des rebelles au-dedans. Alors là, on parle de royaume sur toute la création, du roi souverain qui règne sur toute la création. Deuxième chose, en parlant de choix aux gens, on oublie que les conséquences du péché ont été radicales. Les gens sont morts spirituellement, esclaves du péché et aveugles à la beauté de l'évangile. Et oublier cette situation désespérée, c'est manquer, un, la gravité de la situation de ceux qui nous entourent et louper l'urgence de l'annonce de l'évangile. Et je me souviens d'un auteur athée, Penn Jillette, je crois qu'il s'appelle, un athée fervent, antichrétien, etc. Et dans une vidéo, il dit, mais je ne comprends pas les chrétiens qui ne parlent pas de Dieu. Je ne comprends pas que les chrétiens n'ont pas ce sentiment d'urgence d'annoncer l'évangile. Alors c'est un athée qui est très cohérent et qui va au bout de la vision biblique du monde et qui l'a compris mieux que certains, mais il dit, c'est comme si on savait qu'il y a un camion, il y a un poids lourd qui fonce sur les gens et qu'on doit leur dire ça parce qu'ils ne peuvent pas le voir. Au mieux, on leur dit, au pire, on les arrache de la route parce qu'on ne veut pas qu'ils se fassent écraser. Et c'est dans cette situation d'impasse que sont ceux qui ne connaissent pas Dieu. Souvent, on présente la situation de ceux qui ne connaissent pas Dieu comme de quelqu'un qui est en train de se noyer. Quelqu'un qui est en train de se noyer et qui appelle à l'aide et qui tend sa main en attendant que Dieu la prenne. Et parfois même, on présente le salut comme ça, on dit, mais tu sais, Dieu, il veut attraper ta main, etc. Le problème avec cette image, c'est que ce n'est pas l'image que la Bible nous montre. La Bible, elle ne nous dit pas que les gens sont en train de se dépatouiller parce qu'ils sont en train de se noyer. La Bible, elle nous dit que les gens, ils sont au fond de l'océan et qu'ils sont déjà morts. Et que le salut, c'est Dieu qui va les chercher, qui les ramène sur la rive et qui les ressuscite. Après, la fausse neutralité, c'est des titres un peu choc. Le problème du dualisme. Qu'est-ce que j'entends par dualisme? Et ça, c'est un peu l'épine qu'on retrouve dans une mauvaise compréhension de la vision biblique du monde. Le problème du dualisme, voilà, si on confond structure et direction, c'est qu'on va dire que la création est mauvaise, et du coup on va, comme j'ai dit tout à l'heure, déclarer mauvais ce que Dieu a déclaré bon, ou alors on va minimiser la portée du péché, parce qu'on va penser que certains endroits de la création n'ont pas été touchés par le péché. On va comprendre pourquoi je dis ça. La première forme qu'on retrouve du dualisme, c'est chez Platon. Et ce n'est pas étonnant qu'on retrouve le passage le plus significatif dans le Nouveau Testament concernant la question de la résurrection dans 1 Corinthiens 15. Parce que les Corinthiens étaient baignés dans cette philosophie grecque. Et ce dualisme de Platon, en gros, Platon nous dit que la réalité est séparée en deux. D'un côté, il y a la partie matérielle du monde, le monde sensible, qui n'est en fait qu'une imparfaite représentation du monde des idées. Le monde des idées qui est idéal. Et pour lui, le monde matériel est à rejeter, parce que c'est mauvais, parce que c'est la matière, parce que c'est vil, et on doit plutôt rechercher l'idéal du monde des idées, ce monde qui est immatériel, qui est esprit. Et pour Platon, on doit abandonner ce qui est terrestre pour se concentrer sur le monde des idées, l'immatériel et l'idéal. Mais la Bible, elle dit différemment. La Bible, elle ne dit pas que l'on pêche parce qu'on est des hommes, parce qu'on a un corps physique. Elle dit que nous sommes pécheurs et c'est pour cela qu'on pêche. Ce n'est pas à cause de notre corps qu'on pêche, c'est à cause du péché. Et là encore, on doit faire une séparation stricte entre la création de Dieu, y compris notre corps physique, et le péché qui a tout entaché, y compris tout notre être. Et on voit que cette vision du monde a perduré cette vision du monde aussi a influencé des théologiens comme Origène ou Augustin. Par exemple, Origène, il est connu pour ses interprétations allégoriques. Et il dit, en gros, que tout ce qui est matériel dans la Bible, c'est une allégorie du spirituel. Et on retrouve ces traces du dualisme de Platon qui sépare le matériel qui est mauvais d'un côté et le spirituel ou ce qui est immatériel et qui est bon de l'autre côté. On retrouve cette même idée de dualisme dans quelque chose peut-être que vous connaissez un peu mieux. C'est quand on parle du monde. Alors on dit, l'Église doit se séparer du monde. L'Église ne doit pas se mélanger au monde. Amen. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? En fait, dans la Bible, on voit que le mot « monde » a plusieurs sens différents, suivant, bien sûr, le contexte. C'est pour ça que c'est important à chaque fois de voir le contexte pour savoir ce que veut dire l'auteur. Ce n'est pas parce qu'on voit le mot « monde » à un endroit et à un autre endroit qu'il signifie la même chose aux deux. Monde dans la Bible peut signifier la création, la terre habitée par tout le monde, ou alors peut avoir des connotations strictement négatives. Et c'est cela qu'on entend quand on parle du monde. On dit qu'il faut se séparer du monde, on dit qu'il faut se séparer de tout ce qui est mauvais dans le monde. Alors le risque, c'est de faire coïncider le monde mauvais, tout ce qui a été entaché par le péché et la création. Et là, on confond le monde mauvais, le péché, et le monde créé par Dieu qui est bon. Et c'est là où on confond structure et direction et tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. Et en gros, le monde, pour le chrétien, il ne désigne pas une sous-catégorie de la création. Parce que toute la création a été entachée par le péché. Il ne signifie pas non plus une sous-catégorie de la culture, puisque toute la culture a été entachée par le péché. On va voir pourquoi c'est important tout à l'heure. Enfin, une dernière distinction, une dernière forme du dualisme s'exprime par le sacré et le séculier. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. On le retrouve un peu avec force quand on parle de laïcité. On va voir les implications tout à l'heure. Mais cette vision dualiste du monde, elle sépare le monde en deux, ou la vie en deux, d'un côté le sacré qui est bon, et de l'autre le séculier qui est mauvais. Et peut-être ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans nos églises, encore aujourd'hui, de manière assez forte. Elle implique par exemple plusieurs choses. La première chose qu'elle implique, cette vision du monde, de sacré et de séculier, elle implique qu'il y a des choses qui échappent au règne de Christ. Parce que les choses du séculier ne concernent pas notre relation avec Dieu. Et du coup, on va voir la famille ou l'église dans le sacré, mais dans le reste, on va mettre le séculier, le travail, les loisirs, le temps passé avec les amis, etc. Tout ça, c'est séculier. Et en faisant ça, on sépare le monde en deux. Et on dit, ok, Dieu, tu peux me dire ce que je dois faire dans le sacré, mais je fais ce que je veux dans le séculier, et on fait un grand écart. On ne comprend pas aussi comment on peut glorifier Dieu dans tous les aspects de notre vie. Et on a du monde à comprendre, on a du mal à comprendre pourquoi, et comment on doit glorifier Dieu dans le côté séculier. Comment je peux glorifier Dieu dans mes loisirs? Comment je peux glorifier Dieu dans mon travail? Et ça, c'est parce qu'on a séparer le monde en Dieu en deux entre séculier et sacré. Et j'aime bien une parole que j'ai tirée dans un des rares livres en français sur la vision du monde qui s'appelle « La vision chrétienne du monde » qui dit « En tant que chrétiens, nous n'ajoutons pas la grâce à ce que nous faisons, mais nous laissons la grâce transformer ce que nous faisons. » Et dernier point sur la chute, c'est la question de la grâce commune. La grâce commune, elle caractérise deux choses fondamentalement. Un, la suspension du jugement de Dieu, c'est-à-dire que Dieu ne punit pas directement le péché de l'homme. Il y a une attente, on lit dans Pierre, Dieu attend pour juger les hommes. Et on voit qu'il y a une manifestation, malgré le péché, de la grâce de Dieu. Dieu est bon encore envers les hommes, malgré le péché. Il donne les pluies en leur saison, etc. Et je lis cette citation de Tim Keller qui dit « La doctrine du péché signifie qu'en tant que croyants, nous ne sommes jamais aussi bons que ce que notre bonne vision du monde pourrait nous rendre. » En même temps, la doctrine de la création en image de Dieu et notre compréhension de la grâce commune nous rappelle que les non-croyants ne sont pas aussi corrompus que leur mauvaise vision du monde pourrait les rendre. Ok, j'accélère un peu, sinon ça va être... Je commence à quelle heure ? 15. J'ai commencé à 15. Ok. Bon, comme on a posé les bases, ça va aller super vite. Alors, on a déjà parlé de la solidarité de la création. Au début de la création, toute la création est bonne. La solidarité de la création, c'est-à-dire le monde créé, la nature et l'homme, dans la portée du péché, toute la création a été entachée par le péché. On va encore parler de la solidarité de la création dans la rédemption. Toute la création est concernée par la rédemption de Christ. Et c'est pour ça aussi que toute la création doit entendre la bonne nouvelle de Christ. Non seulement toute la création, toute l'humanité, mais c'est toute la création avec la terre qui est concernée par la rédemption. Et on retrouve ça dans Romains 8. Romains 8 nous montre comment... la terre, la création entière attend la rédemption future et l'asservissement de l'esclavage du péché. Toute la création a été entachée par le péché et toute la création sera au bénéfice de la rédemption de Christ. Et souvent, quand on parle de la croix, on pense juste à notre salut. Si on est sympa, on pense au salut des copains, des frères et sœurs. Mais on a rarement cette dimension cosmique du salut où, par la croix, Dieu rachète toute la création. Ça vous connaissez aussi. Alors, presque tous les mots qui parlent du salut dans la Bible... implique un retour à une situation ou un état bon mais perdu. Et on va voir ce que ça veut dire, ce retour à cet état ou situation bon mais perdu. Mais on remarque la rédemption, la réconciliation, le renouvellement, la régénération. Même le mot salut implique un retour à la sécurité après un danger ou après un péril. Et on voit que les effets de la rédemption sont parallèles à ceux de la chute. C'est le tableau que j'ai mis. Le péché nous a rendus morts, la croix nous rend la vie. Le péché nous a rendus esclaves, la croix nous rend libres. Le péché nous rend aveugles, la croix nous redonne la vue. Nous étions ennemis, la croix nous réconcilie. Nous étions enfants de colère et nous sommes maintenant enfants d'adoption. Et ça, on comprend aussi que l'homme soit appelé à glorifier Dieu. Ce n'est pas une nouveauté de la rédemption. On ne doit pas glorifier Dieu parce qu'on a été racheté. Alors, si, c'est vrai. Mais on doit aussi et surtout glorifier Dieu parce qu'on est des êtres humains. Et tous les êtres humains sont appelés à glorifier Dieu. Et c'est bien pour ça que la colère de Dieu est sur ceux qui ne le glorifient pas. Ce n'est pas nous qui choisissons de glorifier Dieu ou pas. Nous avons été créés pour glorifier Dieu. Et quand nous sommes rachetés, quand nous sommes au bénéfice de la rédemption par la croix, nous retrouvons notre but et nous sommes rendus capables de faire ce pour quoi nous avions été créés. Et on retrouve encore cette idée que personne n'est dans une position neutre. Si tout le monde doit glorifier Dieu, et si certains ne le font pas, ça veut dire qu'ils sont dans un état de rébellion actif. Christ n'est pas venu pour nous donner la possibilité d'avoir une relation avec Dieu. Alors, dans un sens, oui. Mais cette relation, on l'a déjà. Pour certains, c'est une relation de désobéissance et de rébellion, et pour d'autres, c'est une relation d'amour et d'obéissance. Et la croix permet de changer la nature de la relation. Mais tous les hommes sont en relation avec Dieu. Et ça, c'est très important pour expliquer pourquoi les gens sont pécheurs et sont coupés de Dieu. Certains vont dire, ça traduit leur vision du monde, mais moi, je suis bon, moi, je ne fais pas le mal. Alors, il faut voir aussi la mesure qu'ils emploient pour définir le bon et le mal. C'est souvent eux-mêmes. On n'utilise pas une branche tordue pour voir si un mur est droit. En tout cas, je ne vous donnerai pas ma maison à faire. C'est Dieu qui doit nous servir de repère. Une chose importante, c'est qu'on parle de restauration, mais la restauration n'implique pas une régression. Je cite encore un auteur qui dit « Le mariage ne doit pas être évité, mais sanctifié. Les émotions ne sont pas à réprouver, mais à purifier. La sexualité ne doit pas être refoulée, mais retrouvée. La politique ne doit pas être écartée, mais réformée. » Quand on parle de restauration dans la Bible, on ne parle pas de retour à un état naturel. On ne parle pas d'un retour en arrière. Le but de Dieu, ce n'est pas de nous ramener au jardin d'Éden, mais c'est de nous amener dans la Jérusalem céleste. On voit que la Bible, elle commence dans un jardin et elle finit dans une ville. On voit donc que le développement culturel n'est pas... On a dit que ce n'était pas une mauvaise chose, mais d'autre part, on voit qu'il ne sera pas oublié au renouvellement de toutes choses. Quand on parle de la nouvelle création, ce sera une création développée. Et quand on parle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, ce n'est pas comme si on était avec des iMac et des iPods et on mangeait des super bons burgers et on va se retrouver tout nu dans le jardin d'Éden. Non, la nouvelle création prend en compte le développement culturel. Autre chose très importante, c'est que la glorification, qu'on va voir juste après, ce n'est pas un retour à l'état d'Adam, mais c'est une conformité à l'état de Christ. Si Adam était bon, Christ est glorieux. Et c'est incomparable, la stature qu'on aura lors de la glorification, à la stature qu'on avait lors de la création. Je finis avec cette citation, enfin je finis, après j'ai encore une mini-partie, mais... Ça va aller super vite, ça va bien se passer, Raph. Je lis. « D'abord, la création est toujours bonne et ses structures continuent de fonctionner. » L'auteur parle de notre situation ici, de l'autre côté de la chute. « Ensuite, tout est tordu, déchu, et les choses ont pris une mauvaise direction. Elles ont été déviées. Enfin, il y a quand même de l'espoir. Alors que les saisons de la révélation s'enchaînent, nous en découvrons davantage à propos de ces trois étapes, mais surtout à propos de la troisième, l'espoir. L'évangile, la bonne nouvelle, qu'en dépit du péché, Dieu nous a tant aimés que le péché n'aura pas de dernier mot. » Et ça, c'est la bonne nouvelle de la rédemption. On passe à la dernière étape, et c'est l'étape la plus courte, parce qu'elle construit sur tout ce qu'on a déjà dit avant, c'est la glorification. Et je lis dans Hébreux 2:8, alors vous voyez qu'il n'y a pas encore, j'avais parlé du déjà. Qui c'est qui a déjà entendu cette notion de déjà pas encore? Super. Alors, quand on parle de ça, de quoi on parle? Je prends Hébreux 2:8. En effet, en lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Il parle de Christ. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Toutes choses sont déjà soumises à Christ, mais on ne le voit pas encore. Le royaume de Christ est déjà inauguré, mais pas encore consumé. À la première venue, Christ a inauguré son royaume, et quand il reviendra, Christ viendra l'instaurer. Et en ce moment, on vit, nous, dans une tension entre ce déjà et ce pas encore. On a déjà toutes les réalités du salut, mais elles ne sont pas encore complètes. On a déjà goûté, on a les arts, on a les prémices, on a le gage, mais on n'a pas encore l'héritage. Voilà, j'avais fait encore un petit schéma. Je sais que Raph aime bien les schémas, moi aussi. Quand on parle de la nouvelle création, qui est la dernière étape, dans cette histoire de la rédemption qu'on a survolée ce soir. Quand on parle de la nouvelle création, on parle d'une nouvelle création physique, matérielle. Et on a vu que c'est cohérent avec la vision biblique du monde, puisque elle commence avec une création matérielle et elle finit avec une création matérielle. Je vous lis deux passages, un dans Ésaïe 65 et l'autre dans Apocalypse 21. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. » Et on retrouve ce que Jean nous dit dans l'Apocalypse. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Et la mer, dans le langage de Jean ici, c'est une image du mal. Le mal a disparu. Donc on voit que cette idée de la nouvelle création, c'est une nouvelle création physique. Alors souvent, quand on parle du paradis ou de la nouvelle création aux gens, ils ont cette idée qu'on sera un peu tout nu, mais caché par les nuages, en train de jouer de la lyre et de flotter. Et il y a beaucoup... À tes souhaits. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur de s'ennuyer dans l'éternité. Ils se disent, purée, si on doit jouer de la lyre pendant toute l'éternité, ça va être long, quoi. Et en fait, cette image, c'est encore le fruit du dualisme dont on a parlé avant. Le dualisme qui sépare le monde physique et le monde immatériel. Le monde physique serait à éviter et le monde immatériel à rechercher. Et si on reste dans cette dynamique-là, le paradis, la nouvelle création, c'est une nouvelle création qui est immatérielle parce qu'elle est dégagée du péché. Mais Paul, dans 1 Corinthiens 15 et toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous dit que le monde physique n'est pas mauvais, c'est le péché qui est mauvais. On le répète, on le répète. Et la même solidarité qu'on avait dans la création, dans la chute et dans la rédemption, on la retrouve dans la glorification. C'est toute la création qui participe à la glorification. Et je vais finir avec deux citations. La première de James Packer. Non, c'est pas ça. La première de Jacques Buchholz, qui dit « Ainsi Dieu règne non seulement partout en tant que créateur omniprésent, mais aussi quelque part dans sa création en tant que roi de l'univers. Et lorsque Dieu instaurera son royaume éternel, nous n'irons pas au ciel, c'est le ciel qui viendra chez nous. Oui, un jour, c'est la gloire du ciel lui-même qui viendra sur la terre. » Et on retrouve cette même solidarité dans le but de la création. Le but de la création, c'était de glorifier Dieu. Le but de la nouvelle création, c'est toujours et encore de glorifier Dieu. Et je finis avec cette citation de James Packer qui répond un peu à l'idée qu'on pourrait s'ennuyer dans l'éternité. Cette idée vient aussi du fait qu'on oublie que la culture restera dans la nouvelle création. Soit dit en passant, je vous invite à lire deux choses. Lisez Ésaïe 60 et Zacharie 14. Dans Ésaïe 60, on voit que tout ce qui était décrié et condamné par l'Éternel à cause du péché, ça c'était dans Ésaïe 2, toutes ces choses dans la nouvelle création, elles sont transformées. Et par exemple, il parle des navires de Tarsis qui probablement étaient là pour transporter des armes, des soldats, etc. On retrouve ces navires dans la nouvelle création. On voit aussi dans Zacharie 14 que toute chose participe à la gloire de Dieu. Et il y a cette image assez rigolote des marmites, même dont on se sert pour faire cuire les choses, où il y a marqué à l'Éternel. Tout est consacré dans la nouvelle création à l'Éternel. La création en elle-même, les hommes, mais aussi la culture. Et je finis avec James Packer qui a dit « Les cœurs sur la terre peuvent dire, au cours d'une expérience joyeuse, « Je voudrais que cela ne s'arrête jamais. » Mais cela s'arrête inévitablement. Les cœurs au ciel, de ceux au ciel disent « Je veux que cela dure pour toujours. » Et ce sera le cas. Il n'y a pas de meilleure nouvelle que cela.
Merci Max. On va passer maintenant à un temps de questions-réponses. Avec le micro.
Et alors, si vous avez des questions, des incompréhensions, ou vous voulez des compléments d'informations, ou si vous avez aussi des questions appliquées, par exemple des observations que vous faites sur des comportements ou des choses que nous devrions faire, etc., posez-les à Matt. Alors, William, là-bas, a une question.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir Mathieu.
Salut.
J'ai une question d'école primaire à poser, ou peut-être une remarque. Étant donné que, d'abord, félicitations, merci pour cette présentation qui est très cohérente, très utile, à laquelle j'adhère. Mais j'ai un problème avec la création, parce que lorsqu'on affirme que tout ce que Dieu a créé est bon, en sachant que l'être humain a des problèmes depuis qu'il a commis le péché, et en sachant notamment que ce péché n'est dû qu'à l'inspiration du serpent, que n'a pas créé l'être humain. Donc si tout ce que Dieu a créé est bon et qu'on se retrouve dans la mouise aujourd'hui, pourquoi ce serpent a été créé? Pourquoi est-il venu inspirer des idées tordues à l'être humain? Et je crois que sans ce serpent-là, Adam et Ève n'auraient pas sombré dans ce que nous savons. Alors j'ai du mal à m'inscrire dans cette explication-là. D'accord. Je ne vois pas la cohérence.
Alors, si je comprends bien, tu poses la question de l'origine du mal. Oui. D'accord. Alors, je vais encore te poser une question avant de répondre. Est-ce que pour toi, cette origine du mal, elle vient contredire la bonté de la création? Ou juste, tu maintiens que la création est bonne, mais tu te poses la question de l'origine du mal? Si la création était bonne, d'où vient le mal? C'est ça que tu veux?
De ma question, mais je note tout simplement que tout ce que Dieu a fait est bon,
ouais.
Mais je ne comprends pas pourquoi on est dans autant de difficultés alors que tout ce qu'il a fait est bon.
D'accord, je comprends.
Et que le serpent vient tout pourrir alors que nous, on ne l'a pas créé, mais c'est lui-même qui l'a fait.
Ouais.
Donc autrement dit, si nous sommes dans une culture aussi dégradée aujourd'hui, n'en est-il pas le responsable?
Oui, si. En gros, tu dis, c'est Dieu qui a créé le serpent, et c'est le serpent qui a fait entrer le péché dans le monde, ça pose un problème. Alors, on pourrait faire une semaine là-dessus, je vais passer 2 minutes, alors je vais réduire. Peut-être 2 pistes de réponse. Une observation et 2 pistes de réponse. La première observation, c'est que, bravo, tu as trouvé la question la plus difficile qu'on peut se poser. Le pauvre de moi qui doit y répondre. Alors, la démarche, toujours quand on se pose des questions, c'est bien sûr de chercher quelque chose qui est logique, mais surtout de chercher la réponse de la Bible. Quand elle parle de l'origine du mal... La Bible, elle souligne toujours 2 choses qui sont parallèles et qui font maintenir. Alors, on va voir qu'elles sont en tension et que c'est une tension qui est difficile à vivre et même difficile à imaginer. Mais pourtant, ces 2 choses sont affirmées d'une part et d'autre par l'Écriture. La première chose, c'est que la Bible affirme le caractère parfaitement bon de la création. Le caractère entièrement bon de tout ce que Dieu fait. Dieu affirme que tout ce que fait Dieu, la Bible affirme pardon, que tout ce que fait Dieu est bon et que c'est l'homme qui est responsable du péché. Donc ça, c'est une chose, premièrement, qui est affirmée dans toute la Bible. La création est bonne et c'est l'homme qui est responsable du péché. Alors oui, il a été... poussé par Satan, mais l'homme est responsable du péché. La deuxième chose que la Bible met en tension avec ça, c'est que Dieu est entièrement souverain sur tout ce qui se passe. C'est-à-dire que Dieu est souverain sur l'apparition du péché. De toute éternité, et je le dis dans la forme peut-être la plus légère, de toute éternité, Dieu savait que le péché entrerait dans le monde. Et la Bible va plus loin, c'est peut-être choquant et c'est difficile à concevoir cette tension, c'est que Dieu, puisqu'il est souverain, et comme on l'a dit tout à l'heure, que tout ce qui se passe a été ordonné par Dieu, c'est Dieu lui-même qui est souverain sur l'apparition du péché. Alors ça nous pose beaucoup de questions. On se dit, purée, comment on peut arriver à résoudre ça? Deux choses. La première, c'est que même si ça rend les choses difficiles à comprendre, ça nous rassure, parce qu'on sait que rien de ce qui se passe n'échappe à Dieu, ni à sa connaissance, ni à sa volonté. Ça veut dire que toutes les épreuves que nous traversons, Dieu les connaît. Et deuxième chose, je vous conseille le petit livre de John Piper en français qui s'appelle « Le mal fait-il partie du plan de Dieu ?» et qui répond à cette question. Qui répond à la question, mais si Dieu a créé tout bon, et si Dieu il a créé le serpent, mais alors d'où vient le mal? Et est-ce que le mal était prévu dans le plan de Dieu? Et est-ce que tous ces dérèglements étaient prévus dans le plan de Dieu? Alors, on a commencé avec une bonne question, merci. Je ne sais pas si j'ai donné des pistes, j'ai essayé.
Ricardo a une question.
Alors ça va toucher à la question de la création et de la glorification.
Yes.
Donc tu nous as parlé de la nouvelle terre et des nouveaux cieux.
Ouais.
Alors pour toi, la terre actuelle sera détruite ou elle sera tout simplement, je ne sais pas quel mot dire, mais...
Purifiée.
Par exemple, du coup, ça concerne des textes comme 2 Pierre, au chapitre 3, à partir du verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, en ce jour les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée.
Yes. Alors, deux choses. La première, une observation d'ordre de théologie biblique. Dans toute la révélation biblique, on voit que Dieu ne détruit pas ce qu'il crée. Au déluge, Dieu n'a pas détruit la terre. Il a exercé son jugement et une certaine forme de purification par l'eau. On voit aussi que à la glorification, il n'y aura pas une éradication de l'homme, mais un renouvellement en gloire de ce que Dieu a sauvé. Dieu y jette pas ce qu'il a fait pour faire quelque chose de nouveau, il prend ce qu'il a fait et il le purifie. Et on a vu cette continuité, ce qui reste, c'est ce qui a été créé, mais qui rentre en gloire. Non seulement qui est purifié du péché, mais qui rentre en gloire parce qu'on va ressembler à Christ qui est glorifié. Ça, c'est le côté théologie biblique. Une autre chose, il me semble que dans le même passage, Pierre fait un parallèle avec justement le jugement de Noé. Il dit que de la même manière qu'au temps de Noé, la terre a été détruite par l'eau, est-ce que c'est dans le même passage? Tu l'as sous les yeux? Ils veulent ignorer, verset 5, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement de la ruine des hommes impies. Et ensuite, il y a le passage que tu as cité. Donc on voit qu'il y a un parallèle, une correspondance qui est faite entre le jugement de Dieu sur l'humanité au temps de Noé par l'eau, qui était une préfiguration du jugement dernier sur l'humanité et sur la terre, cette fois pas par l'eau mais par le feu. Deuxième petite observation, c'est que la consommation sera consumée, la création sera consumée, c'est pas un synonyme d'annihilation. La terre ne va pas disparaître. La consommation, surtout par rapport au feu dans la Bible, c'est l'image de la purification par le feu. Donc le feu est utilisé pour purifier. On a souvent cette image avec l'or, l'or qui est purifié par le feu. Le feu fait fondre l'or et toutes les impuretés remontent à la surface. Donc je pense, non, qu'elle ne sera pas détruite mais renouvelée.
Bonjour. Tu es passé, tu as dit tout à l'heure quelque chose qui aurait, je pense, nécessité peut-être un peu plus de développement. Tu as dit l'homme est semblable à Dieu dans une certaine mesure.
Ouais.
Et tu as passé à autre chose. Bon, je sais que certains, dans certains milieux dits chrétiens, il y a des hérésies à partir de là.
Ouais.
Et est-ce que tu veux préciser comme ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement,
ouais,
que l'homme est créé à l'image de Dieu, voilà.
Bonne question, merci. Quand je parle de ça, alors il y a cette idée, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur la question de l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, cette question d'image de Dieu ? J'ai retenu ce qui me semblait fondamental, c'était la notion de ressemblance et la notion de représentation, qui sont liées. On retrouve cette même idée dans d'autres livres de la Bible, de l'Ancien Testament, qui utilisent le même mot, utilisé dans la même idée de ressembler et de représenter, notamment pour les statues dans les villes. La statue d'un souverain représentait le règne du souverain dans cette ville. Et cette statue était à l'effigie de celui qui régnait sur la ville. Donc les statues étaient en image du roi. Et c'est cette même idée en fait qui est employée dans Genèse. C'est aussi cette même idée qui est employée quelques chapitres plus loin quand on parle... alors je vais le prendre. Je crois que c'est Genèse 5. Genèse 5, verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Il lui donna le nom de Seth. Donc, il y a cette idée aussi de filiation qu'on retrouve dans ce terme d'image, mais aussi de ressemblance, pas au sens physique, mais au sens des caractéristiques. De la même manière que quand on me voit, certaines personnes qui connaissent mon père peuvent dire « Ah, toi, je vois que tu es un fils Giralt. » De la même manière, quand on voit un homme... on devrait dire, ah tiens, je reconnais que tu as été créé par Dieu et que tu es fils de Dieu. Alors c'est notamment vrai des chrétiens qui cherchent à ressembler à leur Père céleste et qui veulent le refléter, qui veulent être encore plus à son image. Et cette notion d'image et de ressemblance, on la retrouve dans toute la théologie biblique du reflet. On est à l'image de Christ et on voit que lors de la glorification, cette image sera parfaite parce qu'on le verra face à face. Donc on doit ressembler à Christ. Pourquoi ? Parce qu'on doit avoir les mêmes caractéristiques que lui. Et d'une certaine manière, on peut parler aussi en théologie systématique des attributs communicables, c'est-à-dire des choses qu'on retrouve à la fois dans la nature de Dieu et la nature de l'homme. C'est parce que Dieu est un Dieu qui a une volonté, que nous avons une volonté, c'est parce que Dieu est un Dieu qui exprime de la joie, que nous pouvons exprimer de la joie, de l'amour, la vérité, la justice, la patience, etc.
Est-ce qu'il y a une autre question ? Moi, j'en ai une. Tu disais tout à l'heure que la chute avait tout contaminé. Toute la création a été impactée par le péché, mais pas complètement. On entend dans les églises, moi je sais que de petit, quand je fréquentais les églises et maintenant, régulièrement, on entend des choses comme, par exemple, je me souviens, dans un temps, quand j'étais jeune, on me disait que le cinéma, c'est mal, parce que c'est du monde. Où je sais que des églises se sont déchirées dans l'histoire récente sur la question, par exemple, des fils électriques. Parce que le diable est dans les fils électriques, donc il ne faut pas de guitare électrique et encore moins de batterie, puisque le rock est une musique satanique, et donc c'est faire rentrer les choses du monde dans l'église. Ou encore, est-ce qu'on peut utiliser les locaux de l'église pour, par exemple, projeter un match de foot pour inviter des amis de l'extérieur, ou c'est utiliser l'Église pour faire des choses du monde? Comment est-ce qu'une bonne théologie, une bonne vision du monde peut répondre à ce genre de questionnement?
Super. Alors, ça, on va le voir. Non, c'est une super bonne question. Ça, on va le voir un peu plus en détail tout à l'heure. Dans la deuxième partie, je donne quelques éléments de réponse. Comme ça, tout à l'heure, peut-être, pour aller plus vite si je suis encore à la bourre. Deux choses. La première, c'est que, justement, si on a une vision biblique du monde, on sait que la création n'est pas mauvaise en elle-même, mais que, effectivement, comme tout a été entaché, elle peut pencher dans un sens ou dans l'autre de la direction, soit pour glorifier Dieu, soit pour persister dans la désobéissance. On a vu aussi que la culture, comme la création, était entachée par le péché, et qu'on a vu que la culture, ce n'est pas seulement les films, etc., mais c'est tout ce qu'on fait de la création. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ceux qui tiennent ce discours devront m'expliquer, c'est un petit challenge à eux, comment ils défendent cela. Parce que si c'est la culture qui est mauvaise en soi, ils devront s'abstenir de toute activité culturelle et ils ne vont plus rien manger, donc ça va être difficile. La deuxième chose, c'est qu'en affirmant cela, on retrouve ce dualisme un peu persistant dont on a parlé tout à l'heure, qui sépare le monde en deux. Et on dit que certaines parties de la création ou certaines parties de la culture n'ont pas été entachées par le péché. Et du coup, là, on a un conflit entre notre vision biblique du monde qui dit que toute la création a été entachée par le péché et que toute la culture a été entachée par le péché. Et d'un coup, on dit qu'il y a certaines choses qui sont acceptables et pas d'autres. Alors, on pourrait arriver déjà à une vision un peu plus cohérente si certains affirmaient qu'il y a des choses qui sont plus ou moins entachées par le péché. Alors ça, on arrive déjà à quelque chose de plus cohérent, et c'est vrai. La création n'a pas été entachée de manière égale, et on retrouve des aspects de la création qui ont été plus entachés que d'autres. Et c'est pareil dans la culture. Après, il faudra m'expliquer en quoi et pourquoi les choses qu'on décrit comme étant mauvaises le sont. Il faudra m'expliquer pourquoi le match de foot est mauvais. Il faudra m'expliquer pourquoi les fils électriques sont mauvais. Il faudra m'expliquer pourquoi la guitare électrique est mauvaise. Alors on peut avoir une réflexion intéressante sur la technologie ou sur la culture. Peut-être on en parlera tout à l'heure. Mais comme ça, la théologie biblique et la vision biblique du monde nous permet d'affirmer qu'il n'y a rien qui soit entièrement corrompu au point d'être inacceptable. Et le travers, et je finis avec ça, dans lequel tombent ces chers frères et sœurs, c'est à mon avis de confondre structure et direction. Et ils disent qu'il y a quelque chose qui a été tellement entaché par le péché qu'il n'y a plus rien de bon à l'intérieur de ça. Il faudra m'expliquer pourquoi.